Visizac le 10 décembre.
Alors, regardez, là, je viens des fois avec des livres, et là, bon, Hachem, j'ai sorti un livre.
Voilà.
C'est pas un livre de recettes de cuisine. Le livre de recettes de cuisine de mon épouse est là. Ça, c'est celui d'il y a quelques années. Hein. Et bon, si vous voulez l'offrir, vous avez encore une heure pour l'offrir pour Hanouka. Donc j'en ai amené si ça vous intéresse. Et là, donc ça c'est un livre que je vais vous expliquer un petit peu comment ça m'est venu l'idée d'écrire ce livre, qui m'a pris quand même 7 ans pour l'écrire. Je vais d'abord les Chaim. Alors, comment c'est venu? Il y a justement 8 ans, un de mes fils qui habite en Israël. Alors j'étais chez lui lorsque son épouse est rentrée de la clinique avec leur troisième enfant. Ils ont eu deux garçons et une fille. Et mon fils, il était tout content. Il a dit, voilà, on accomplit le commandement de fructifier, multiplier. Bon, lui, c'est un talmudiste. Vous en avez déjà rencontré, oui. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Je me suis rendu compte que bien qu'il connaissait beaucoup de sujets dans la Torah, ce sujet qui est quand même important, du commandement d'avoir des enfants, il ne connaissait pas. Je me suis rendu compte qu'il ne connaissait pas le sujet. J'ai été choqué parce que, disons, parmi les talmudistes même, ceux qui étudient, qui sont experts, je ne sais pas, dans des sujets de kashrout, des sujets de shabbat, eh bien, sur un sujet fondamental comme le commandement en hébreu on dit « piria verivia », je me suis rendu compte qu'il n'avait aucune notion. Alors j'ai écrit un livre là-dessus. Voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Parce que le sujet est très peu abordé. Et bon, je m'occupe de jeunes, d'étudiants qui vont se marier. Et souvent, les jeunes qui sont dans notre yeshiva, je fais la préparation au mariage avec eux. Et je me suis rendu compte que les préparations classiques, on ne parle jamais du sujet d'avoir des enfants. On parle d'un sujet qu'on peut penser important, comment bien s'entendre avec son épouse, je ne sais pas. Disons que ça soit important. Disons. On appelle ça ici à Sarcelles Shalom Bayit. Non. Ou alors, deuxième sujet, je pense, qui fait partie du Hit Parade, le Chinour. Ouais, éducation des enfants. Ok, tout le monde veut apprendre sur élever les enfants. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est pourquoi avoir des enfants? Là, il y a silence radio, silence complet. Or, si on regarde dans la Torah, je vais vous lire les versets. Je prends un fromage de Bereshit. Or, dans le Chumash, le verset dit comme ça, au tout début de Bereshit, je vous lis les versets. Vayevra Elohim et Adam et Salmo, Betselem Elohim bara oto, Zachar unekeva bara otam. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il l'a créé. Mâle et femelle, il les a créés. Bon, premier verset, Dieu a créé l'homme, Zachar ou Nekeva. Il a créé l'homme, homme et femme. Ça veut dire, qu'un homme, c'est pas un monsieur ou une madame, c'est un homme et une femme. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est l'humain ? C'est un homme et une femme. C'est pas un homme d'un côté, la femme de l'autre côté. C'est un homme et une femme. Ça, c'est première chose. Donc, il a créé l'homme. Voilà. Vayevarer otam Elokim. Dieu les a bénis. Première chose, l'homme et la femme, Dieu les a bénis. Ça, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pour ça que nous, sous la choupa, quand il y a un homme et une femme, il y a les sept bénédictions. Tout de suite, il faut la bénédiction d'Hachem. Pour qu'il y ait un couple, il faut la bénédiction d'Hachem. Et maintenant, Dieu va parler. Attends, qu'est-ce qu'il va dire ? Okay, attention. Vayomer laem Elokim, Dieu leur dit, fructifiez, multipliez. Peru ur vous, fructifiez, multipliez. Pourquoi ? C'est ça qu'il dit. Pourquoi ? C'est la première chose. Quand il a créé l'homme, homme et femme, première chose qu'il dit à ses créatures à qui il peut parler, fructifier, multiplier. Ça, c'est incroyable. Pourquoi c'est ça ? Il aurait pu dire, vous accomplirez mes commandements, vous me servirez, vous me craindrez, vous m'aimerez, plein de choses. Pourquoi ? C'est la première chose qu'il a dite. Ça, c'est vraiment incroyable. Alors, cette question, je vous dis sincèrement, c'est la seule question du livre. C'est sur cette question que j'ai cherché comment répondre à cette question. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, je vous dis un petit peu qu'est-ce que... Ça vous évitera d'acheter. Je vous dis un peu pourquoi. Résumons, 400 pages. Pourquoi ? Alors, je vais vous dire, j'ai vraiment fouillé comment ça se fait. J'ai jamais vu cette question dans aucun commentaire. Mais grâce à Dieu, avec mon épouse, on a fait des travaux pratiques. Et on a essayé de comprendre. Essayez de comprendre. Et en vérité, une des questions principales quand on amène des enfants au monde, c'est les jeunes couples. D'abord, ils ont des enfants en bas âge, ils sont explosés. Explosés. D'abord, c'est moi je dis souvent aussi, pour faciliter, enlevez le mot dormir de votre vocabulaire. Oh, c'est plus simple. Vous enlevez le mot dormir, c'est plus facile. C'est plus facile. On oublie que la notion existe et on essaie de se débrouiller. Ça veut dire ça, c'est vraiment inconfortable. C'est vraiment les enfants, c'est le fourbi aussi de plus. Pourquoi les enfants, ils naissent pas propres ? Pourquoi ils sont pas, ils naissent pas comme Emmanuel Macron, très bien, propre, soigné, impeccable. Je sais pas, ils sont un enfant, ça met du ketchup partout, on allume les lumières de Hanouka et ils font tomber la lumière de Hanouka. Pourquoi ? C'est des enfants. C'est quoi, outre le fait que ça apporte de la vie, évidemment. La vie, c'est du fourbi. La vie, c'est pas quelque chose qui est encadré comme ça. Et c'est justement, on est dans la société occidentale, les enfants, souvent, c'est pas très, comment dire, ils sont pas très acceptés, disons, dans la culture occidentale dans laquelle on est. C'est ça... Il faut qu'il soit sage, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ci. C'est un peu contradictoire. On a des projets. Je vous donne un exemple. Là, mon épouse, elle vient de m'appeler. Baruch HaShem, on a un enfant quand même de 11 ans. Avant que je vienne là maintenant, elle m'a appelé. Voilà, il a reçu un ballon de foot à l'école dans la figure. Il doit rentrer à la maison. Tout à l'heure, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Non, voilà, c'est ça un enfant. Mais pourquoi il a joué au foot? Pourquoi son copain l'a envoyé dans la figure? C'est ça les enfants. Mais alors pourquoi Dieu, il nous demande d'amener des enfants? Pourquoi? Bon, et puis les enfants, ils deviennent grands. C'est quoi? Alors, je vais essayer de synthétiser. Comme ça, abstraitement, je dirais, je n'ai pas de réponse. Mais en étudiant le Talmud, on a réussi à mettre quelques sources, quelques pistes pour répondre à cette grande question. En étudiant le traité Ketubot avec des rabbinim et des élèves, on a découvert des choses très très bizarres. Donc on vient de voir qu'il y a un commandement de la Torah fondamental. Dans le compte même des commandements de la Torah, c'est le premier chronologiquement dans la Torah, premier commandement, fructifier, multiplier, amener des enfants. Un commandement de la Torah. Bien. Est-ce que, d'après le droit juif, les parents ont l'obligation de nourrir leurs enfants? Prenons un exemple. Comment? Ah, vous avez des sources qui sont exactes. Alors, on va aborder ça. Très bien. C'est parfait.
Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui ne peuvent pas avoir d'enfants? Puisqu'on dit procréer et avoir des enfants.
C'est vrai. Regardez, on va aborder cette question dans un deuxième temps. On va l'aborder. Hein, vous avez tout à fait raison. Oui, regardez, on va essayer de voir ça. Hein. On va essayer de voir ça. Alors, il y a un passage dans la Gemara qui dit, il y a un verset qui dit, Ashrei Adam ose mishpat, ose ohev mishpat, ose tzedaka bechol et. Heureux l'homme qui aime la justice et qui fait de la tzedaka à tout instant. Alors là-dessus, la Gemara dit, qui est la personne qui peut faire de la tzedaka à tout instant? Faire de la tzedaka à tout instant, ça veut dire, c'est s'occuper des pauvres. On n'a pas tout le temps un pauvre devant soi. De temps en temps, mais à tout instant, non. La Gemara répond, c'est la personne qui nourrit ses enfants et ses garçons et ses filles quand ils sont petits. Donc ici, c'est un point fondamental que la Gemara appelle nourrir ses garçons et ses filles tzedaka. Ça veut dire, c'est des êtres démunis. Nous savons que dans les lois de tzedaka, on doit s'occuper d'abord des plus proches. Pas de ceux qui sont... Ça veut dire, si on a un ordre de priorité à trouver, c'est d'abord les gens de notre ville plutôt que les gens d'une autre ville. Si on a par exemple, je ne sais pas, 200 euros de tzedaka à donner et que il y a le collel de Sarcelles ou un collel à Jérusalem, même si Jérusalem c'est important, disons on a 200 euros, oui, de tzedaka à donner. Alors disons 150 pour le collel de Sarcelles, 50 pour le collel de Jérusalem. Voilà. Disons, globalement, je dirais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on se désolidarise des autres endroits, mais en priorité, là où on vit. Si, dans notre famille, on a un cousin qui est dans le besoin et qu'il y a quelqu'un de la communauté qui a besoin, notre cousin, il passe d'abord. Voilà. Mais plus que ça, il y a un cousin, mais il y a nos enfants... Nos enfants. Mais nos enfants, ce n'est pas de la tzedaka. Ça pourrait être une obligation. Prenons un autre exemple. Un monsieur, il se marie. D'après la plupart, d'après tous les décisionnaires, il a une obligation juridique de subvenir aux besoins de son épouse. Est-ce que cette obligation est écrite dans la Torah ou c'est une institution rabbinique? Bon, ça, c'est un débat. Prenons Rashi, prenons Maïmonide, c'est une obligation de la Torah. Donc, un homme se marie, il a une obligation, d'après la Torah, de subvenir aux besoins de son épouse. Voilà. Une obligation d'après la Torah. Mais d'après ce passage du Talmud que je vous cite, ça s'appelle la tzedaka. Qu'est-ce que ça veut dire la tzedaka? Tzedaka, ça veut dire si je le donne, je fais une mitzvah. Mais en soi, ce n'est pas une obligation. Concrètement, il n'y a pas une saisie du tribunal si je ne le fais pas. Au niveau de l'agmara, la base de l'agmara, c'est du juridique, c'est du droit. Si quelqu'un ne donne pas de la tzedaka, ce n'est pas bien. Mais ses biens ne sont pas hypothéqués à ça. Par contre, s'il a de l'argent et qu'il ne subvient pas aux besoins de son épouse, le tribunal fait une saisie. Si le tribunal a les moyens, par exemple, il y a 3 semaines, j'étais à Casablanca. Première fois que je vais au Maroc, c'était au mariage d'un élève. Bon, alors là-bas, les tribunaux rabbiniques ont des moyens. Ils ont des pouvoirs. Voilà, le roi du Maroc donne des pouvoirs aux tribunaux rabbiniques. Donc si on est dans un endroit où le tribunal rabbinique a des pouvoirs, un mari a des biens, il a de l'argent sur son compte en banque, il ne subvient pas aux besoins de son épouse, le tribunal fait une saisie. Mais d'après ce que je vous rapporte, un monsieur ou une dame, ils ont des biens, ils ne nourrissent pas leurs enfants, c'est la tzedaka, il n'y a pas de saisie. Pourquoi? Alors madame dit tout à fait à raison qu'il y a un passage dans le Talmud qui dit que néanmoins, les enfants en bas âge, jusqu'à 6 ans, c'est ce que vous dites absolument, madame. Là, il y a, oui, une obligation juridique. Jusqu'à 6 ans. C'est-à-dire, vraiment, les nourrissons. 6 ans, c'est l'âge du CP, si vous voulez. Pourquoi? Alors, si on creuse, c'est parce que si je nourris pas mes enfants en bas âge, mon épouse, elle va se priver. Donc pour qu'elle ne... Or moi, comme j'ai l'obligation de la nourrir, si je nourris pas mon enfant en bas âge, comme cet enfant est toujours avec elle jusqu'à l'âge où il commence à sortir de la maison, aller à 6 ans, c'est l'âge du CP, donc jusqu'à cet âge-là, si je ne nourris pas, elle va se priver pour son enfant. Donc, à titre de nourrir mon épouse, j'ai l'obligation de nourrir mon enfant en bas âge. Conséquence, disent les commentateurs du Talmud, Rabbi Nissim, Rabbi Nissim de Gérone, il dit, conséquence, c'est que Dieu nous en préserve. Quelqu'un, il a un enfant avec sa femme. Et lorsque son enfant a 2 ans, il divorce de sa femme. Que Dieu nous en préserve, il divorce de sa femme. Donc là, il n'a plus l'obligation de nourrir sa femme. Donc puisqu'il n'a pas l'obligation de nourrir sa femme, même son enfant qui a moins de 6 ans, il n'a pas l'obligation de le nourrir. Comment? Ah, alors, il y a le casip. Non, bon, c'est pas très romantique ce que je vous raconte. Non, alors, il faut que ça serve. Il y a des institutions de la communauté. Mais, alors, regarde. Une seconde. Donc, là, alors, c'est sûr que des parents normaux, entre guillemets, n'arriveront pas à ces extrémités. Les parents normaux, genre. Ça veut dire, on s'occupe de nos enfants, et même, Rav Moshe Feinstein, qui était un très grand décisionnaire de la génération précédente, qui est décédé en 1986, Rav Feinstein, lui, il dit que si on a une obligation de fructifier, multiplier, on accomplit ce commandement que si nos enfants, à leur tour, ils ont des enfants. Mais comment on va savoir ça? Il dit que même nos enfants, s'ils sont mariés, comme qui dirait majeurs et vaccinés, les entourer et s'ils sont dans le besoin, les aider, on participe encore, quelque part, du commandement fructifier, multiplier. S'ils sentent qu'ils sont soutenus et qu'il y a des parents qui les aiment et des parents qui sont derrière eux et qui ne sont pas abandonnés dans le vaste monde, eux-mêmes, ils auront confiance et eux-mêmes, ils seront encouragés à avoir eux-mêmes à leur tour des enfants. Donc, on participe encore, quel que soit l'âge. Ben, on a un enfant de 40 ans et il est dans le besoin. Il a des manques, je ne sais pas, il a la bar mitzvah de son fils et il ne sait pas comment boucler la bar mitzvah de son fils. Eh bien, l'aider à faire financièrement la bar mitzvah de son fils, on participe du commandement de Péria Péria. Mais ça, ce n'est pas du juridique. Ça, c'est pas... Ça, c'est, si vous voulez, ça, c'est intérieur, voilà, sentimental, comme vous dites. Mais au niveau juridique du Shulchan Aruch, il n'y a pas d'obligation. Alors, quand on a découvert ça, si vous voulez, c'est pour ça qu'on étudie le Talmud, c'est pour découvrir des choses. C'est une mentalité qu'on n'aurait jamais pensé. On aurait pensé que si on a une obligation d'avoir des enfants, donc c'est sûr que juridiquement, l'obligation de nourrir. De la même manière que l'obligation de subvenir aux besoins de son épouse, l'obligation de subvenir aux besoins de nos enfants, jusqu'au moment où ils arrivent à se débrouiller. Pas du tout. Et même, donc, même d'après l'avis qui dit, et c'est la conclusion, qu'on doit nourrir notre enfant juridiquement jusqu'à l'âge de 6 ans, mais ça, c'est du fait de notre épouse. Donc si on est dans un cas de figure où il y a séparation entre le mari et sa femme, donc même en dessous de 6 ans, il n'y a pas... Alors vous dites, mais alors qu'est-ce qui va venir cet enfant? Bon, les institutions de la communauté. Ok, alors je me suis demandé, si tant est qu'il y a ce commandement fondamental qui s'appelle de subvenir aux besoins, de mettre des enfants au monde, comment ça se fait que les maîtres du Talmud, du Shulchan Aruch, etc., n'obligent pas les parents à nourrir juridiquement? C'est sûr que en vitesse de croisière, c'est sûr les parents vont le faire. Sur 100 personnes, il va y avoir 70 personnes qui vont le faire spontanément. Mais comment ça se fait au niveau halakhique juridique, il n'y a pas d'obligation. Alors, je me suis beaucoup posé cette question. Et... Et je vais vous donner un exemple. Peut-être que j'ai déjà pris ici cet exemple, mais je vais l'utiliser pour autre chose. Pour ça. On est en Shabbat d'hiver, vous avez remarqué, on est en hiver. Et Shabbat, il termine 6h moins le quart. Alors, quand mes filles étaient adolescentes à la maison, comment ça se passait après Avdallah? Papa, tu peux me passer de l'argent, je vais aller m'acheter une jupe. Parce que les magasins sont encore ouverts. C'est pendant des années, je ne sais pas si vous avez, si vous avez vécu cette expérience exaltante. À côté de chez nous, il y a un Monoprix. Très bien. Papa, tu peux me donner 50 euros, je vais aller à Monoprix pour voir s'il y a une jupe. Qui... Bon, d'abord, mais je ne comprends pas. Il y a deux semaines, tu m'as déjà dit la même chose. Oui, mais... Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Il me dit, bon, j'ai déjà mis une fois, ça suffit. Bon, ça, je comprendrai peut-être jamais. Ça, je comprendrai jamais. Mais bon, mais une fois que j'ai étudié ça, ce sujet, j'ai osé dire non. J'ai pas d'obligation. Mais papa, Mais papa, pourquoi non? J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça me saoule. Non. Ça veut dire, regardez, si nous on a l'obligation juridique de nourrir nos enfants, si on a une obligation, ça veut dire, je parle comme un homme, hein, j'ai remarqué que c'est un cours pour les dames. J'ai remarqué, mais je peux pas me mettre, je peux pas jouer un jeu qui n'est pas le mien. Mais disons, mon épouse, disons qu'elle dise, chérie, le frigo est vide. Est-ce que tu peux me donner de l'argent pour que j'aille au marché ou à un hyper cachère? Non. Non. Là, par contre, là, c'est problématique, vous comprenez. Bon, si je dis, on est dans une période difficile, j'ai pas d'argent, bon, ok. Ça, c'est... On peut en parler. Mais disons, il y a de l'argent sur le compte. Elle est... Disons, c'est moi qui ai l'argent. Elle me dit, tu peux passer l'argent, je vais à hyper cacher. Non. Là, c'est un peu déclaration de guerre, quoi. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Parce qu'un mari, il a épousé une femme... C'est une obligation. Ça veut dire, ça lui plaise pas, il est engagé. Ça lui plaise pas. C'est comme ça, c'est obligatoire. Il y a des choses, c'est obligatoire. Mais, si tu me dis que nourrir les enfants, c'est bien, mais c'est pas obligatoire, la relation avec les enfants sera différente. Ça veut dire que moi, je ne suis pas soumis à mon enfant. Je dois m'occuper de mon enfant. Par contre, regardez le paradoxe. Le paradoxe, j'ai une obligation de donner l'éducation à mes enfants et à payer des maîtres à mes enfants. Ça, c'est une obligation. Donc, payer des études à mes enfants de Torah principalement, payer une obligation, payer des maîtres pour enseigner la Torah à mes enfants, payer, c'est une obligation. Les nourrir, c'est pas une obligation. Alors vous allez me dire, comment? C'est difficile. Alors, il y en a qui ont essayé, mais c'est difficile. Alors, c'est difficile. Alors, mais peut-être. Si on se dit, je nourris mes enfants, mais je ne suis pas soumis à mes enfants, je ne suis pas soumis, j'ai pas, je ne suis pas, en hébreu, ça s'appelle, en hébreu du Talmud, meshuabad, je n'ai pas un asservissement. Donc de la même manière, si moi j'ai une obligation, ça veut dire que mes enfants sont redevables par rapport à moi. Ça veut dire, si moi j'ai une obligation à leur égard, Quelque part, moi je suis soumis à eux, eux ils sont soumis à moi. Le fait que, pas seulement la Torah, mais même les maîtres du Talmud, ne nous obligent pas au niveau halakhique à nourrir nos enfants. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est la mitzvah d'amener des enfants au monde? C'est des êtres indépendants de nous. C'est des êtres qui sont libres. C'est quoi la mitzvah de Piria Verivia? C'est quoi la mitzvah? Je veux déduire de ces détails légaux une définition de c'est quoi le commandement de fructifier, multiplier. Le commandement de fructifier, multiplier, c'est amener des êtres libres au monde. Libre, ça veut dire... Je vous donne un exemple. La Mishnah dans le traité Baba Kama dit... Et j'espère que ça va vous choquer, c'est le but. C'est le but. Sinon, surtout, vous savez, là, il est quoi? 15h45, c'est le début de l'après-midi. On est toujours un peu... il faut lancer des boulets pour un peu se réveiller. La Mishnah, elle dit, j'ai un enfant qui n'est pas bar mitzvah, qui prend un marteau et qui casse quelque chose. La Mishnah dit, les parents sont exempts de rembourser. Pourquoi ? C'est des êtres indépendants. Ah, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables. Mais ce n'est pas moi. Moi, par exemple, disons, j'ai un chien. J'ai un chien. Ce chien, il rentre à la boucherie Berbèche et il ressort avec un paleron. Là, je dois rembourser. Pourquoi ? Parce qu'il m'appartient. Il m'appartient, je suis responsable. C'est ce qu'on appelle en français responsabilité civile. Mais responsabilité civile par rapport à mes enfants, dans le droit de la Torah, il n'y en a pas. Ah, les gens ils vont dire, c'est Hilul Hashem. Il y a mon gosse, il a pris un marteau, il a cassé la BMW, la toute neuve de M. Christian. Il dit, monsieur le rabbin, il a cassé, j'ai même pas eu le temps encore d'avoir l'assurance pour ma voiture. J'ai dit, non, d'après le Talmud. Il dit, c'est ça votre Talmud? Oui, vous savez, parce que un enfant, c'est un être libre. C'est un être indépendant, il est indépendant. Bon, il n'est pas majeur, il n'est pas responsable, mais c'est pas parce que... Ça veut dire c'est quoi? Si on disait que moi je suis responsable, ça veut dire que mon enfant, il faudrait que je le tienne avec une laisse. Non! C'est un être libre. Et je pense que de tous ces éléments légaux, on peut avoir une explication. Pourquoi la Torah nous dit que la première chose que Dieu ait dite à Adam, qui s'appelle homme et femme, c'est d'amener des enfants au monde. Parce que le verset dit que Dieu a créé l'homme, Betselem Elohim, à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Betselem Elohim? Qu'est-ce que ça veut dire? On a tous et toutes entendu parler que nous, on est créés à l'image de Dieu. C'est quoi, créé à l'image de Dieu? On pourrait dire Tselem Elohim, image de Dieu, moi je traduirais plutôt, il y a un reflet divin chez l'humain. Tselem, il y a un reflet divin chez l'homme. Et l'homme qui est créé à l'image, en reflet divin, Dieu lui a dit, fructifie, multiplie. Et je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Kadosh Baruch Hu, il a fait dans le monde? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi? Il a créé, et le cœur de sa création, c'est Adam. Zahar, homme et femme. C'est quoi? Créer des êtres différents de lui, qui vont faire leur chemin et qui vont avoir une liberté, qui vont être libres, qui vont faire leur chemin, qui vont faire des choix. Des fois, ils font des bons choix, des fois, ils font des mauvais choix, et s'ils font des mauvais choix, ils peuvent se reprendre parce qu'ils sont libres. Ça, c'est le but de la création, des êtres qui sont libres. Et nous, si on est Betzelem Elohim, c'est ça notre commandement. Notre commandement, c'est d'amener des êtres au monde qui vont faire leur chemin. Alors c'est sûr, comme qui dirait, on espère qu'ils vont faire un bon chemin. Mais ils sont libres. Ils sont complètement libres. Si moi j'avais l'obligation de les nourrir, ça veut dire, ce serait mes petits toutous, si vous voulez. J'ai l'obligation de leur acheter du canigou-ron-ron. Voilà. Non. Alors c'est sûr qu'on va les nourrir. Mais c'est personnel, c'est émotionnel, c'est par amour, par proximité, justement, que ces enfants ressentent que leurs parents, les parents les attendaient, qu'ils sont bienvenus dans ce monde. Ils sont bienvenus, que ce monde, ce n'est pas un monde de bagarre, c'est un monde où ils sont accueillants et qu'ils sont accompagnés. De même manière que Dieu nous accompagne, nous on les accompagne. Dieu nous accompagne, nous on les accompagne. Mais, quelque part, fondamentalement, ils sont libres. Et c'est pour ça, j'explique, parce qu'il y a aussi une énorme question. Peut-être, mesdames, vous avez déjà entendu qu'il y a un débat dans la Mishnah dans le traité Yevamot. est-ce que les femmes sont soumises à l'obligation de fructifier, multiplier ? Concrètement, disons une jeune fille, elle traîne pour se marier. Alors c'est sûr que dans notre tradition, on lui cassera assez les pieds à la Sina pour... Mais à part qu'on lui cassera les pieds à la Sina, à part ça, est-ce qu'elle a l'obligation de se marier ? Alors, dans la halakha, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. L'homme a l'obligation. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas comment... Oui, et puis d'autre part, si l'homme il a l'obligation de fructifier, multiplier, même s'il y a des développements technologiques poussés, aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un enfant sans homme, mais on ne peut pas de faire un enfant sans femme. Ça viendra. Mais bon, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Même avec tous les trucs technologiques de pointe, les clonages et tout, et tous les trucs, fécondation, in vitro, fécondation, médicalement assistée, tout ce que vous voulez, un homme, c'est facultatif. Mais une femme, c'est obligatoire. Alors comment on peut dire que l'obligation, c'est les hommes et pas les femmes ? Alors, je me permets d'expliquer. Ça, c'est... Si vous voulez, j'ai pas trouvé stricto sensu ces explications, mais je propose de ce que nous voyons ensemble, qui est oui, écrit dans le Talmud, je propose de là la démarche suivante. Que amener des enfants libres au monde, c'est très dur pour une femme. Et ça, c'est le mari qui doit endosser ça, et qui doit prendre sur lui que ses enfants soient libres. Je vous prends un exemple, je pense que vous allez comprendre tout de suite, si je peux me permettre. Vous me direz si vous avez compris. Au mois d'août, il y a mon grand garçon, Baruch HaShem, il a eu la bar mitzvah de son fils, en Israël. Et notre grand garçon s'est marié avec une Israélienne. C'est tout l'effet que ça vous fait ? Comment ?
C'est courant.
D'accord, non mais... Non mais c'est déjà mal barré. C'est déjà mal parti. Non, bon, Hachem, elle est extraordinaire. Non, la question n'est pas. Mais c'est déjà mal parti. Ça veut dire. C'est une mentalité. Je veux dire. Nous, on a. Même si nos parents étaient des immigrés, on se considère français. On considère, même si ça faisait pas longtemps qu'on était en France, qu'on est français. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon. Et alors, donc il y a la bar mitzvah. La bar mitzvah, donc il y a un Shabbat bar mitzvah. Ensuite, ils ont programmé de faire la fête. C'était mardi soir, Shabbat, mardi soir. Bon, ils n'habitent pas Jérusalem. Et bon, Hachem, excusez-moi, je ne veux pas faire le malin, Chazou Shalom, c'est pas ça, mais pour vous montrer le contexte, on a 8 enfants en Israël, dont 7 mariés. Donc ça fait des trucs. Alors, mon épouse s'est risquée de demander à notre belle-fille, alors comment ça va se passer le Shabbat ? Comment ? Alors, elle a dit... évidemment en hébreu, hein, parce que c'est une Israélienne. Hein. Mais ça, bon, on parle couramment hébreu, ça c'est pas le problème. Mon épouse moins que moi. Bon, évidemment, nos petits-enfants, ils ont fait aucun effort. Mon épouse et ils ont fait aucun effort pour apprendre le français. Bon, ok. Et notre chère belle-fille, elle a dit, bon, je travaille beaucoup, ils ont un bébé, c'est trop compliqué pour moi d'organiser le Shabbat. Ceux qui peuvent venir, ils viennent, et sinon, bon, ben, ils seront là à la fête le mardi soir. Bon, décryptage de mon épouse, on décrypte. Ça veut dire tous les frères et sœurs de notre belle-fille habitent la même ville, et les Izek, il n'y a que son mari qui habite dans la ville, évidemment c'est son mari, mais tous les autres, ils habitent dans d'autres villes. Donc résultat, elle s'en fout que ses beaux-frères et belles-sœurs soient là pour le Shabbat Bar Mitzvah. Donc résultat, mon épouse a dit, je ne peux pas aller à cette Bar Mitzvah, c'est insupportable. Aller à cette Bar Mitzvah, c'est, elle s'en fout de la famille de son mari, qui est nous en l'occurrence. On n'est pas thunes, hein, on est ashkenaz. Hein. Non, non, c'est pour vous détendre. Non. C'est international, n'ayez pas peur. C'est une thérapie collective. Je vous fais une thérapie collective gratuite. Alors, et c'est là, je pense, c'est pour ça que la mitzvah de Peria Verivia incombe, je pense, au mari. Moi, j'ai dit à mon épouse, je lui ai dit, regardez, regarde. Notre fils, il a épousé sa femme. Sa femme, maintenant, sa vie, c'est avec sa femme. Il construit sa vie indépendamment de nous. Il construit sa vie, c'est ça Peria Verivia. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et ça, une femme qui vit les choses avec tout son ses sentiments, avec ça et avec son comment dire, c'est pas moi qui l'ai porté, cet enfant, c'est elle qui l'a porté. C'est elle qui l'a porté, c'est elle qui l'a nourri. Mon épouse, elle s'est toujours défoncée pour allaiter les enfants. Donc c'est elle qui l'a porté, c'est elle qui l'a nourri. Et quelque part, eh ben, je m'en fous de vous. Mais c'est pas qu'ils s'en foutent. Bon, maintenant le résultat, je vais vous dire. Le résultat, c'était très sympa. Le résultat était bon, Hachem, c'était très sympathique. Non, c'était sympathique. Le résultat était sympathique. Comment ? Non, c'est vrai, le Shabbat, on était minoritairement représentés, comme qui dirait. Bon, mais quelques-uns sont venus, moi j'étais là-bas, il y avait deux autres couples étaient. Bon, c'est vrai, mais c'était, bon, Hachem, c'était formidable. Mais ça aurait pu devenir dramatique. C'est avec des choses comme ça que ça devient, hein, n'est-ce pas, madame, elle sait. Avec des choses, ça peut... Ça peut déraper. Mais le point, ça dérape. Mais en vérité, il construit sa vie avec sa femme. Et il construit. C'est ça la mitzvah. Et ça, c'est. Je pense que c'est trop dur. C'est trop dur. Une femme, elle amène l'enfant au monde. Mais il faut que... C'est pour ça l'importance d'un couple. C'est pour ça l'importance d'un couple. Parce qu'on n'est pas seul. La vérité, c'est pas lui a raison et elle a raison. On voit, par exemple, regardez, ce matin, dans la Kriyat HaTorah, on voit à la fin de Parashat Nasso, à la fin de tous les soirs, l'histoire des princes, qui amène les offrandes au temple, à l'inauguration du temple, s'écrit, il y a la voix de Dieu qui sort d'entre les chérubins, à l'intérieur du temple, hein, du Saint des Saints. La voix, elle sort d'entre les chérubins, les chérubins qui représentent un homme et une femme, et c'est la voix de Dieu, elle sort d'entre l'homme et la femme. C'est pas l'homme qui a raison et la femme qui a raison. C'est des deux, de l'ensemble des deux. Mais il faut que chacun puisse apporter sa spécificité. La spécificité, la femme, elle a, c'est son enfant. C'est son enfant, celle qui l'a amené au monde, celle qui l'a porté. Et c'est insupportable qu'il, quelque part, il dit, je m'en fous de vous. Mais d'un autre côté, c'est pas qu'il s'en fout, c'est qu'il construit sa vie. Et ça, c'est ça la mitzvah. C'est pour ça que dans un couple, principalement le joug de savoir que l'enfant est libre et qu'il doit construire sa vie, c'est le mari doit aider, épauler l'épouse à comprendre cela. À comprendre cela. C'est ça. Voilà. Donc ça, cette démarche, je dirais, ça nous explique un peu qu'est-ce que c'est le fond du commandement de fructifier, multiplier. Alors, regardez, beaucoup de gens ont lu ce livre et ils sont addicts. Ils sont addicts et je le dis sans fierté parce que tous les textes qui ont été écrits, c'est des études qu'on a faites en groupe à l'Yeshiva des étudiants ou dans des conférences ou des cours à droite et à gauche, mais surtout à l'Yeshiva des étudiants à Paris. Et c'est le mérite, je dirais, c'est pas mon mérite personnel, c'est le mérite de tous ceux qui ont participé à ces études et qui ont fait que c'est sorti quelque chose. C'est pas du tout mon mérite personnel. Il y a un maître de la génération précédente, Rav Shlomo Volver, quand il a écrit son livre, ce livre a été écrit avec le mérite de la communauté. Et vraiment, c'est pas du tout mon mérite personnel. Je ressens, c'est quelque chose de la communauté. C'est pour ça aussi que j'écris les livres en français. Beaucoup de gens me disent, pourquoi vous écrivez en français? J'espère d'ailleurs les traduire en hébreu. Mais bon, dans un premier temps, j'écris en français parce que ça s'adresse aux gens avec qui je vis et la communauté juive francophone. Voilà. Maintenant, j'aimerais dire quelques mots encore sur Hanouka. Alors justement, cette année, donc là, maintenant, il y a encore une heure de Hanouka. Alors, je vais vous dire un peu, on a fait plusieurs études sur Hanouka. Je vais essayer de vous synthétiser qu'est-ce qui est sorti des études qu'on a faites sur Hanouka. Là aussi, quand on voit les lois de Hanouka, il y a beaucoup de surprises. On sait que lorsque on allume la lumière de Hanouka, il faut qu'il y ait une demi-heure, que la bougie dure au moins une demi-heure, ou bien que la lampe à huile puisse durer une demi-heure. Pourquoi ? La Gemara explique dans le traité Shabbat, parce que c'était le temps des gens quand il y avait le coucher du soleil, la fin du coucher du soleil, jusqu'au moment où il y a du passage dans la rue. C'est là le moment pour que les gens le voient, et grosso modo, ça fait une demi-heure. Donc il faut mettre dans le godet d'huile d'olive une demi-heure, la bougie une demi-heure. Maintenant, vous allumez vos bougies. Et vous avez le petit Chaïm, il croit que c'est son anniversaire, il souffle. il croyait que c'était son anniversaire, il souffle. Qu'est-ce qu'on fait? À part lui donner une claque, évidemment. Bien sûr. Comment? Ah, vous avez tout à fait raison, madame, on ne rallume. On n'a pas l'obligation de rallumer. On n'a pas l'obligation. On a fait la mitzvah. Alors toujours je me suis demandé pourquoi. D'ailleurs, c'est un débat dans la Gemara. Il y en a un qui dit qu'il faut rallumer. Il y a un avis qui dit qu'il faut rallumer. Mais pourquoi? Pourquoi la halakha est qu'il n'y a pas besoin de rallumer? Qu'est-ce que ça nous aurait coûté? D'ailleurs, spontanément, on a envie de rallumer. Tout le monde a envie de rallumer. À la synagogue, enfin au Beit HaMidrash où je suis, hier matin, à Shacharit, ils ont allumé. Moi, comme un imbécile, je suis passé. C'était pas le petit Chaïm. C'était moi le petit Chaïm. Alors, évidemment, quelqu'un l'a rallumé. Spontanément, on rallume. Mais pourquoi? Pourquoi nos mains disent que tu n'es pas obligé? Alors, là aussi, pendant des années, j'ai cherché à comprendre. Et j'ai trouvé quelque chose de très très surprenant dans le traité Yoma. Vous savez qu'au temple, dans le Mishkan et dans le temple, il y a la menorah. La menorah qui se trouve dans le Kodesh. Il y a trois parties à l'intérieur de la salle du temple. Il y a Ezrat Kohanim, la salle des Kohanim, où il y a l'autel, où il y a, on fait les korbanot, les sacrifices, on brûle les sacrifices. Il y a le Kodesh, le sanctuaire, où il y a la menorah, le shulchan, la table où il y a les 12 pains, l'autel d'or où il y a l'encens, et ensuite il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Bien. Dans le Kodesh où il y a la menorah, le shulchan et le Mizbeach Zav, l'autel en or où il y a le parfum, il n'y a que des Kohanim qui peuvent rentrer. En Israël, il n'a pas le droit de rentrer. Même s'il est pur, etc., il n'a pas le droit de rentrer. C'est que des Kohanim. Il y a la menorah à 7 branches. Maintenant, la Gemara, dans le traité Yoma, dit la chose suivante. Quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui fait des sacrifices, c'est interdit. C'est écrit dans la Torah, « Azar akarev yumat ». Quelqu'un qui n'est pas Kohen, il est condamné à mort du ciel, Dieu le condamne à mort, s'il fait des services qui incombent au Kohen, quelque chose qui incombe à Kohen, quelqu'un qui n'est pas Kohen, c'est interdit pour lui. Interdit. Mais, les commentateurs disent qu'il n'est condamnable à mort que si c'est la dernière, s'il a fait, on a jusqu'à quelle heure? Allez, 20, on se va jusqu'à 20. D'accord? Bien. Alors maintenant, il y a la Gemara dit, Daf Kavdalet, 24, Kavdalet, la Gemara dit que quelqu'un qui n'est pas Kohen fait un service, il est condamné à mort que s'il fait la dernière étape du service. Prenons un exemple. On fait un korban, on prend, je ne sais pas, un agneau, on lui fait la shrita. La shrita, quelqu'un qui n'est pas Kohen a le droit de faire la shrita d'un korban. Quelqu'un qui n'est pas Kohen a le droit de faire la shrita. La shrita, ce n'est pas obligé qu'il soit Kohen. Mais à partir du réception du sang, amener le sang à l'autel, verser le sang sur la base de l'autel, il faut que ça soit un Kohen. Si quelqu'un n'est pas Kohen, reçoit le sang, c'est interdit. Mais il n'est pas condamné à mort. Condamné à mort, que la dernière étape, c'est asperger sur la base de l'autel. Bon, alors ils disent qu'il y a quatre sortes d'actions que quelqu'un qui n'est pas Kohen est condamné à mort. Et on ne parle pas d'allumer la menorah. Pourquoi dans la liste on ne dit pas allumer la menorah? La menorah, il faut que ça soit un Kohen qui nettoie la menorah. Il faut que ça soit un Kohen qui nettoie la menorah. Il faut que ça soit un Kohen qui mette l'huile. Il faut que ça soit un Kohen qui mette la mèche. Donc, la Gemara demande si quelqu'un n'est pas Kohen, allume la menorah. Il devrait être condamnable. Pourquoi ce n'est pas écrit qu'il n'est pas condamnable? Pourquoi ce n'est pas écrit qu'il n'est pas condamnable? Ce n'est pas écrit. La Gemara dit, parce que allumer la mèche de la menorah, ce n'est pas une avoda. Ce n'est pas un service du temple. Alors, les commentateurs demandent en quoi ce n'est pas un service du temple. Et c'est a priori Saint Cohen qui doit le faire. Pourquoi ça, c'est pas un service? Alors les commentateurs expliquent, et ça ressort de la Gemara, parce que qu'est-ce que c'est j'allume une lampe à huile ou allumer la lumière de Hanouka? La lumière de Hanouka, tu as une bougie ou une allumette, tu as ta mèche, tu es rapproche. Ça se fait tout seul. T'as pas avoda, c'est quoi une avoda? C'est un travail. Nettoyer la menorah, c'est un travail. Mais allumer la lumière avec la allumette ou la bougie, c'est impalpable. comme c'est impalpable, ça ne s'appelle pas une avoda. C'est pas une avoda. Alors regardez, tellement que Maïmonide, quand il va rapporter la halakha, Rambam, il a tranché toutes les lois des 613 mitzvot de la Torah. Rambam, il dit comme ça. Rambam, il dit, si c'est ainsi, quelqu'un qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de rentrer là où il y a la menorah. Eh bien, si on sort la menorah du sanctuaire, on la met à un endroit où un Israël a le droit d'aller, on demande à quelqu'un qui n'est pas Kohen, allume, et on remet la menorah à l'intérieur, c'est kasher. Mais si tu demandes, mais la menorah, c'est central, dans le Beth Amikdash, c'est central. Mais allumer la menorah, c'est rien du tout. C'est un rien. Donc, puisque c'est rien, ça s'appelle pas... Quand la Torah demande que les Kohanim fassent le travail au Beth Amikdash, c'est le travail, mais allumer, c'est rien du tout. Alors là, je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous dire l'interprétation que je propose, et c'est comme ça que j'introduis les dernières minutes de Hanukkah. C'est quoi Hanukkah? Qu'est-ce que c'est Hanukkah? À partir de là, on va essayer d'expliquer Hanukkah. C'est quoi Hanukkah? Il y a une semaine, quand Hanukkah a commencé, on nous dit, il faut allumer une bougie. Ou une Nerlight là, qui coûte un max. On allume une bougie. Moi, quand ça m'arrive, tous les ans, je suis choqué. Ça veut dire, il y a des fêtes dans la Torah. Il y a des grosses fêtes. Et bientôt, il va y avoir, dans quelques mois, il va y avoir Pessah. Pessah, mesdames, j'espère que je ne vous gâche pas l'après-midi en vous parlant de Pessah. Pessah, c'est le grand chambardement, évidemment, comme chacun sait, c'est incroyable. Voilà, il y a Soukhot, il y a la Soukha, c'est un truc incroyable, il faut aller acheter des loulas, il y a les repas de fête. Même Hanouka, bien que nous, on soit peut-être le peuple le plus gourmand de la Terre, il y a des fêtes tout le temps. Moi, je suis, depuis 3 ans, Henri Murger, il y a des fêtes tous les jours. Vous rentrez là-bas, ça sent la friture, tous les jours. C'est extraordinaire, j'adore. Il y a tout le temps, Baruch HaShem, Bar Mitzvah, Brit Milah, machin, un Siyoum. Il y a des repas tout le temps de fêtes, il reste toujours quelque chose, on mange tout le temps. Hanouka, rien. On peut, mais c'est pas une mitzvah. Donc qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Et on vient de voir, dans la Gemara, c'est rien du tout. Même la Gemara dit, c'est rien du tout. T'allumes, qu'est-ce qu'on doit faire? Un rien. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est Hanouka? Je voudrais vous dire la chose suivante. C'est quoi Hanouka? Les Grecs, ils avaient presque assimilé complètement l'âme Israël. Ils avaient interdit de faire Shabbat, interdit de faire la Mila, interdit d'étudier la Torah. Et pendant des années, et ceux qui enfreignaient leur interdiction, ils les tuaient. Donc maintenant, ceux qui voulaient devenir comme les Grecs, allez-y, tu deviens monsieur le professeur, monsieur le directeur, monsieur tout ça, ça marchait. C'était terrible, c'était absolument terrible. On sait bien, les Hashmonaïm, ils n'ont pas supporté, ils ont cassé la baraque, il y a eu le petit miracle, ils sont rentrés, ils ont trouvé la petite fiole, ils ont rallumé, tac, et il y a eu le miracle. En vérité, et Rambam il dit que c'est une fête très chérie par les enfants d'Israël. C'est vrai. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas religieux, des fois pas religieux du tout, mais allumer la lumière de Hanouka, pour eux, c'est très chéri. C'est une fête vraiment très chérie. Pourquoi? Parce que on ressent ça. On le ressent. C'est cette pérennité du peuple juif, cette petite flamèche. Cette petite flamèche, des fois, tu as des gens, ils ne sont pas religieux, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allumé la lumière de Hanouka. C'est tout. Et ça, ça a repris. C'est reparti. C'est reparti. Mais ça donc, c'est quoi, moi je dirais, c'est quoi la fête de Hanouka? C'est retrouver cette petite flamèche. C'est qu'est-ce qu'on doit faire à Hanouka? On doit retrouver ce petit départ. Ce petit départ qui a fait, par exemple, vous savez, il y a des gens, je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler, il y en a une secte qu'on appelle les gens les balais de chouva. Il y a des gens... Je ne sais pas si j'avais déjà rencontré des gens comme ça, des gens bizarres, comme qui diraient, ils n'étaient pas religieux. Et il y a un truc qui a déclenché. Un truc qui a déclenché. Des fois, c'est un rien. Ils ont parlé avec quelqu'un. Une fois, ça m'est arrivé. Franchement, je vous donne, ce n'est pas pour me mettre en relais, je pense que vous connaissez des situations comme ça. Une fois, j'ai fait un cours à Jérusalem. Il y avait un couple, style, ils avaient la panoplie religieuse, vous voyez. Je ne connaissais pas. Ils m'ont dit, vous savez, avec ma femme, on était copain-copine à l'université il y a 25 ans, et vous aviez fait un cours, c'était la première fois qu'on avait entendu un cours de Torah de Navi. Je ne connaissais même pas. Et moi, ça m'est arrivé avec... Personnellement, ça m'est arrivé à moi. Je pense avec beaucoup, ça... Même les gens qui ont déclenché, des fois, ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte. Une fois, il y a une parole qui a été échangée. Un grand ami à moi, il était copain avec... Il avait une copine non-juive, il y a très très longtemps. Et il s'est retrouvé dans le train. À l'époque, il y avait des compartiments. Il s'est retrouvé en face d'un rave qui s'appelle... Raph Philippe Cohn qui était à Marseille. Donc ça fait très longtemps, Et mon copain m'a raconté, et ce Raph Philippe Cohn, il voyait que ce jeune-là n'était pas dans son assiette. Et il a dit, t'as pas l'air dans ton assiette, qu'est-ce qu'il y a, je te dérange. Et ils ne se connaissaient pas. Et ce monsieur, ce Rav, il a dit des mots à ce jeune. Peut-être il attendait ça. Il attendait ce déclic. Et ça a été son déclic. Mais le déclic, c'est un rien. Peut-être c'est ça la fête de Hanouka. Retrouver ce déclic. Parce que même ceux, disons, il y a des gens, ils ont fait le choix. Ils sont devenus religieux. Ouais. Alors maintenant, ils mangent glatte. Ils font tout attention. Et madame, elle a les cheveux couverts. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais après, ça peut devenir aussi, comme toute chose, de la routine. On vient à la routine, on va hyper cachère, on prend le truc, machin. ça peut devenir de la routine. Et ça devient de la routine. Peut-être le service qu'on a, la Avodat Hashem qu'on a à faire à Hanouka, c'est retrouver. Cette étincelle, cette petite étincelle, c'est ça, on allume, c'est rien, mais il faut le faire, c'est rien, mais c'est quand même quelque chose, il faut le faire, il faut allumer. Maintenant, vous savez qu'il y a un débat dans la Gemara. L'école de Hillel, ils disent qu'il faut allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et c'est comme ça que nous faisons. Mais l'école de Shammai, eux, ils disent qu'il faut allumer 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Vous avez déjà entendu ça. Et toujours, ça me paraissait bizarre. Ça paraît bizarre. Pourquoi 8, machin, milieu? Ça paraît bizarre. Alors, ça, c'est le ridouche de cette année que je vous propose. Le ridouche de Hanouka de cette année. Je propose d'expliquer comme ça. C'est quoi l'idée de Beit Shammai? Quand on arrive à Hanouka, on allume. On allume, parce qu'il faut allumer. Il y a une semaine, enfin il y a 8 jours, si vous m'aviez demandé, est-ce que vous avez envie d'allumer la lumière de Hanouka, j'aurais dit non. On allume, parce qu'il faut allumer. C'est écrit calendrier, premier jour de Hanouka, on allume. Voilà. Donc on allume, parce qu'il faut allumer. Donc ça, c'est l'obligation. C'est le chiyouf, c'est l'obligation. Donc on allume, au départ de Hanouka, on ne sait même pas pourquoi on allume. On allume parce qu'il faut allumer. Mais petit à petit, on se pose la question, mais pourquoi on allume ? Eh bien, le summum de Hanouka, c'est la fin. On allume un. Ça, c'est Beit Shammai. C'est au départ, on allume parce qu'il faut allumer. Donc c'est formel, c'est bourratif, si vous voulez. C'est formel, c'est 8. Mais petit à petit, on va creuser. Et là, on est dans les dernières minutes de Hanouka. Alors, Hanouka, alors, qu'est-ce qu'il y a à Hanouka ? Eh bien, on est arrivé, on a allumé une petite flamèche. C'est ça. Le summum de Hanouka, le but de Hanouka, c'est allumer la petite flamèche. Alors, quand j'ai exposé ça, il y a un Talmid, il m'a posé de très bonnes questions. Alors, il m'a dit, ce que vous dites, c'est complètement bidon. Enfin, il ne m'a pas dit ça comme ça. Il m'a dit, mais finalement, on pourrait dire la même chose, par exemple, du chauffard à Rosh Hashanah. Là aussi, c'est pareil, il faut s'éveiller. C'est pour s'éveiller, finalement. Et cette question, elle est très, très bonne. Parce que les élèves du Baal Shem Tov, ils disent que là, maintenant, le huitième jour de Hanouka, c'est la fin du jugement de Rosh Hashanah. Ce qui a commencé à Rosh Hashanah et cette question qu'il m'a posée, elle était magnifique parce qu'elle explique tout à fait ça. À Rosh Hashanah, le chauffard, on doit s'éveiller à l'intérieur. Le chauffard, c'est nous éveiller à l'intérieur. Mais la fin de ce qui a commencé à Rosh Hashanah, c'est maintenant le huitième jour de Hanouka. C'est quoi le huitième jour ? Que ce qui était à l'intérieur, il faut que ça commence à se concrétiser par un acte, à se concrétiser par une flamme qui ressort à l'extérieur. Ce qui était à l'intérieur, qui a fait son chemin là pendant plusieurs mois, et bien maintenant, à Hanouka, il faut qu'il éclaire, qu'il ressorte à l'extérieur. Ça, c'est la lumière de Hanouka. C'est vrai, c'est une flamèche. C'est une flamèche, cet éveil, mais cet éveil, il faut pouvoir faire que on puisse transmettre, on puisse le transmettre. Voilà, comme ça, on pourrait introduire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va nous rester du huitième jour, des dernières minutes de Hanouka. Voilà, merci mesdames. Et voilà, si vous voulez, l'auteur pourra dédicacer.